Catherine Deneuve.
Belle de Jour, c'est une jeune femme qui a fait un mariage avec un jeune chirurgien. Assez heureuse, enfin très amoureuse de son mari, mais beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à s'aimer.
Ça peut pas faire de mal.
Et qui se trouve amenée par, pour des raisons multiples, très difficiles à expliquer, surtout à cause d'un grand désaccord physique avec son mari, à se dégrader physiquement en allant dans des maisons de rendez-vous pendant qu'il travaille à l'hôpital. Et c'est une histoire qui se terminera tragiquement, parce que c'était pas possible autrement.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Quel cas extraordinaire, m'a-t-on dit plusieurs fois, et certains médecins m'ont décrit qu'ils ont connu des Séverines. Il apparaissait clairement que, dans leur pensée, Belle de Jour était une observation pathologique réussie. Or, c'est là précisément ce que je ne veux pas laisser croire. La peinture d'un monstre ne m'intéresse point, même si elle est parfaite. Ce que j'ai tenté avec Belle de Jour, c'est de montrer le divorce terrible entre le cœur et la chair, entre un vrai, immense et tendre amour et l'exigence implacable des sens. Ce conflit, à quelques rares exceptions près, chaque homme, chaque femme qui aime longtemps le porte en soi. Il est perçu ou non, il déchire ou il sommeille, mais il existe. Antagonisme banal, combien de fois dépeint. Mais pour le porter à un degré d'intensité qui permette aux instincts de jouer dans la plénitude de leur grandeur et de leur éternité, il faut à mon avis une situation exceptionnelle. Je l'ai délibérément conçu, non pour son attrait, mais comme le seul moyen de toucher d'une pointe plus sûre et plus acérée au fond de toute âme qui recèle cet embryon tragique. Le sujet de Belle de Jour n'est pas l'aberration sensuelle de Séverine, c'est son amour pour Pierre, indépendant de cette aberration, et c'est la tragédie de cet amour. Serais-je seul à plaindre Séverine? À l'aimer? Cette déclaration d'amour est signée par un grand écrivain du XXe siècle. Il s'agit de Joseph Kessel, l'auteur de Belle de Jour, le roman immortalisé au cinéma par Louise Buñuel. Souvenez-vous, c'était en 1967, il y a tout juste 50 ans, le film consacrait une jeune comédienne à l'élégance parfaite, Catherine Deneuve. En face d'elle, un jeune premier au physique tout aussi parfait, Jean Sorel, l'interroge d'une voix inquiète.
À quoi penses-tu, Séverine? À quoi penses-tu?
Je pensais à toi, à nous deux.
À travers cette réplique faussement anodine, c'est toute la morale bourgeoise avec ses convenances et sa bienséance qui éclate à l'écran. Car le propos de Buñuel est hors de toute morale. Sa caméra ose montrer ce que le jeune couple n'ose s'avouer, sa sexualité défaillante, la frustration des corps et surtout la force du fantasme assumé dans sa violence et ses paradoxes. Ce soir, redécouvrons cette histoire d'amour passionnel née de l'imagination de Joseph Kessel. Si dans le film de Buñuel, le scénariste Jean-Claude Carrière adapte le livre en le transposant aux années 60, le roman de Kessel, lui, est publié presque 30 ans plus tôt, en 1929. Autre époque, autre mœurs, où les maisons closes sont encore légales, où la quête du plaisir féminin reste un sujet tabou. Commençons par l'image du couple idyllique que semblent former Séverine et Pierre. Ils sont jeunes, beaux, issus de milieux aisés et mariés depuis 2 ans. Les voici au sport d'hiver où leur silhouette éclate de vitalité sous les regards d'admirateurs. Mais tout n'est-il pas déjà trop parfait pour être vrai? Découvrons Séverine qui s'initie à une activité à la mode, le ski de fond, tracté par un cheval. Sur la monture, son mari Pierre orchestre la manœuvre. D'abord, elle n'eut souci que de son équilibre et de ne point paraître ridicule. Avant de trouver l'espace libre, il leur fallait traverser d'un bout à l'autre l'unique avenue de la petite ville suisse. À cette heure, tout le monde s'y croisait. De son sourire éclatant, Pierre saluait des camarades de sport ou de bar, des jeunes femmes vêtues en hommes et d'autres allongées au fond de traîneaux à couleurs vives. Mais Séverine ne voyait personne, attentive seulement aux jalons qui annonçaient l'approche de la campagne, l'église avec sa petite place et sans mystère, la patinoire, la rivière toute sombre entre les berges toutes blanches. L'ayant dépassée, Séverine respira mieux. Elle pourrait trébucher, personne ne serait témoin de sa chute, personne sauf Pierre. Mais lui... Et la jeune femme fut embellie de tout son amour qu'elle perçut à cet instant dans sa poitrine comme une tendre bête vivante. Elle sourit à la nuque hâlée, aux belles épaules de son mari. Il était né sous le signe de l'harmonie et de la force. Tout ce qu'il faisait était adroit, juste et si aisé. « Pierre ?» appela Séverine. Il se retourna. Le soleil le frappant en plein visage lui fit fermer à demi ses larges yeux gris. « Il fait bon !» dit la jeune femme. La vallée neigeuse s'étirait en courbe d'une douceur qu'on eût dite calculée. Tout en haut, autour des cimes, quelques nuages flottaient, molles et laiteuses toisons. Sur les pentes, on voyait des skieurs glisser avec le mouvement ailé, insensible des oiseaux. Séverine répéta « Il fait bon !»«
Ce n'est rien encore !» dit Pierre.
Il pressa plus étroitement les flancs du cheval et prit le trot. « Cela commence !» pensa la jeune femme. Une sorte d'angoisse heureuse se répandait en elle qui peu à peu se chargeait d'assurance, d'allégresse. Elle tenait bien. Les patins effilés la portaient d'eux-mêmes. Il n'y avait qu'à céder à leur mouvement. De lents traîneaux chargés de bois les croisaient et sur eux, assis de côté, les jambes pendantes, des hommes carrés, brûlés. Séverine leur souriait.
« Très, très bien !» lui criait Pierre de temps en temps.
Il semblait alors à la jeune femme que cette voix joyeuse, aimante, venait d'elle-même. Et lorsqu'elle entendit « Attention !» un réflexe ne l'avait-il pas averti que le plaisir qu'elle éprouvait allait devenir plus vif encore ? La noble cadence du galop martela la route. Ce rythme envahit Séverine. Elle se livrait entièrement à la joie primitive qui venait fondre sur elle. Rien n'existait plus dans le monde que les pulsations de son corps. Elle régnait sur lui, en même temps esclave et souveraine. Et cette blancheur radieuse tout autour, et ce vent glacé, fluide comme une boisson, pur comme les sources, la jeunesse. « Plus vite !» criait Séverine. Ils formaient à eux trois le même bloc, animal et heureux. Mais l'air de la montagne ne réussit pas à Séverine. De retour à Paris, la jeune femme tombe malade. Au cours de sa convalescence, elle reçoit une visite inattendue. À la station de sport d'hiver, le couple Sérisy avait fait connaissance d'un certain Henri Husson, admirablement incarné par Michel Piccoli au cinéma.
« Je vous ai vu passer tout à l'heure, bras dessus, bras dessous. Vous faisiez plaisir à voir, on aurait dit, de tout jeune marié. Que vous êtes séduisante, Séverine. »«
Vos compliments sont trop subtils, taisez-vous donc. »«
Il fait pas trop froid dehors ?»«
Non, non, le temps est très doux. »«
Je vais prendre un peu l'air avant que la nuit tombe. »«
Bonne promenade. Je l'aime bien. Il est drôle. »«
Il est bizarre. »
Ce personnage de séducteur, cynique et pervers, avait immédiatement déplu à Séverine. Quelque temps plus tard, celui-ci pousse la provocation jusqu'à lui envoyer un bouquet de fleurs à son domicile. Un après-midi, il se fait annoncer chez elle, découvrant ce huis clos qui n'apparaît pas dans le film de Buñuel. Demeurée seule, Séverine quitta son lit de repos et fit introduire Husson. La trouvant assise derrière une petite table et comme protégée par un vase plein d'iris à travers lesquels on la voyait mal, il sourit. Elle se sentit encore plus mal à l'aise lorsque, s'étant assis en face d'elle, Husson eut écarté les fleurs. « Sérisy est absent ?» demanda-t-il soudain. « Sans doute. Autrement, vous l'auriez déjà vu. Il ne vous quitte guère, je pense, quand il est ici. Et il vous manque ?»«
Beaucoup.
Je le conçois fort bien, puisque moi-même j'ai un grand plaisir à le voir. Il est beau, joyeux, réfléchi, loyal. Ce doit être un compagnon incomparable. » Pour marquer son énervement, Séverine se redressa à demi et feignit d'arranger les fleurs placées près d'elle. « Je trouve que vous avez perdu votre figure de jeune fille. Je vous remercie du compliment. » Vous êtes à l'ordinaire plus franche envers vous-même. » Séverine attendit l'explication de cette phrase. Elle ne vint pas. Husson se fit plus prévenant. « Vous êtes fatiguée de rester assise, » dit-il. « Ne faites pas de cérémonie avec moi. Allongez-vous. » « Mais je vous assure, j'ai l'habitude. » « Non. Non, Sérisy m'en voudrait trop. Allongez-vous. » Il s'était levé, écartant son fauteuil pour laisser un passage libre à la jeune femme. Séverine chercha une réplique nette et dure, comme elle en savait trouver si aisément avant sa maladie. Mais il ne s'en présenta aucune à son esprit. Pour éviter que cette sorte de lutte ne tournât au ridicule, elle alla s'étendre, pleine d'irritation et de gêne. « Si vous saviez comme vous êtes mieux ainsi, » reprit doucement Husson, « vous devez croire, et on a dû vous le répéter, que vous étiez faite pour le mouvement. Les gens sont superficiels. Dès que je vous ai connue, j'ai pensé à vous coucher. Comme j'avais raison. Quelle mollesse soudaine !» Quelle confession des muscles! Tout en parlant, il s'était placé un peu en retrait, de sorte que Séverine ne le voyait plus. Sa voix était seule à agir, cette voix dont à l'ordinaire il semblait ignorer la puissance et de laquelle il jouait maintenant, comme d'un instrument dangereux. Elle ne s'adressait pas à Louis seulement, mais à toutes les cellules nerveuses, dissolvantes, secrètes. Affaiblie par la maladie, captive de ces ondes insinuantes, Séverine avait l'impression de retrouver les limbes de sa convalescence. Soudain, deux mains pesèrent à ses épaules. Une haleine avide lui brûla les lèvres. Pendant une fraction incalculable de secondes, elle fut stupéfaite du plaisir aigu qui la saisit, mais il fit place aussitôt à un dégoût sans bornes. Sans qu'elle sût comment, elle se trouva debout et chuchota d'un souffle pressé, charnel. « Non, vous n'êtes pas fait pour le viol. » Ils se dévisagèrent longuement. Dans cette minute, il n'y eut aucune barrière entre eux. Ils découvraient dans les yeux de l'un de l'autre des sentiments, des instincts que chacun, peut-être, ignorait de lui-même. Envahie par un sentiment de culpabilité, Séverine tente de se rapprocher de son mari. Pierre Sérisy est chirurgien à l'Hôtel-Dieu. Le soir même, après la visite de Husson, il rentre d'une humeur sombre et se confie à sa femme. Un patient a succombé à une opération. Alors qu'elle voulait lui avouer le geste de Husson, Séverine juge le moment inopportun. Contrairement à leur habitude, qui est de faire chambre à part, le couple passe la nuit ensemble. À l'aube, Séverine a pris de nouvelles résolutions. Elle ne voulut pas attendre davantage pour montrer à Pierre la nouvelle tendresse dont elle était submergée et lui embrassa le front. Encore à cette limite incertaine entre la veille et le sommeil, où le corps sans guide est magnétisé par son instinct, Pierre se pressa contre Séverine. Il demeura quelques secondes mêlé à cette plage obscure et chaude qu'est une femme aimée avant qu'on prenne conscience d'elle. Puis il murmura d'une voix toute nourrie de rêve « Ma chérie, ma chère chérie ». Avec un désarroi naissant et un immense désir de donner, Séverine murmura « Que puis-je donc pour toi, mon amour ?» Pierre se pencha sur elle. Il se dévisageait comme s'il se découvrait. Et la jeune femme lut cette prière tremblante au fond des larges yeux gris. « Ah, Séverine, Séverine, si tu pouvais enfin ne plus m'accorder ton corps pour ma seule joie, mais la connaître toi-même et te perdre en elle. » Ce regard portait un appel si fort, si dense, que Séverine en fut émue charnellement comme elle ne l'avait jamais été. Ce que le geste de Husson lui avait fait un instant éprouver la veille, voici qu'elle le ressentait de nouveau, mais avec la félicité de la tendresse. Que Pierre la serra de ses mains dont elle connaissait la force, et sans doute, sûrement, elle plierait sous la joie qu'il suppliait d'elle. Une fois encore, elle se laissa prendre avec un sentiment maternel. Ensuite, Pierre et Séverine furent sans mouvement. À quoi, à qui pensait Pierre? Peut-être à des maîtresses qu'il avait eues, qu'il n'avait point aimé et qui pourtant avait reçu de lui le plaisir presque mortel de la volupté. Peut-être à l'injustice qui faisait de cette femme étendue à son côté pour laquelle il lui donnait sa vie, de cette femme qu'il aimait, un corps incapable du parfait mélange dont il avait un désir farouche et religieux. En Séverine, une triste stupeur se faisait jour parce qu'elle savait avoir toute puissance sur Pierre et que malgré cela, elle n'était point parvenue à se faire ouvrir davantage une âme qui lui appartenait. Cette âme, sans le vouloir, se refusait à elle, comme sa chair se refusait à lui. Le silence qui régnait entre eux était lourd de cette défaite.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Je foule le green de prairies chauves où l'été indien se prélasse. Je suis son écho vénitien. Dans le maquis, les herbes rasent. Je fige, je devine en chemin. Dans les blés fauves, le temps qui fera. Moi dans l'alcôve de ma berline. Loin de toi, j'ai peur. Rien. Je t'aime mieux quand t'es pas là. Je me dis que tu penses à moi. Et quand je te perds en partance, j'accepte. J'accepte. prend le vent. Je souris souvent, joue les jocondes. J'écoute les oiseaux de proie chanter de là-haut que la terre est blonde. La nuit exit, je coupe le moteur et je laisse ton corps contre le mien. Et si je frémis, just like a kid, les champs de blé n'en sauront rien. Je t'aime mieux quand t'es pas là. Je me dis. Tu ma course, coûte que coûte, j'accélère. Je t'aime mieux quand t'es pas là. Je me dis que tu penses à moi. Et quand je te perds en partance, j'accélère.
Quelques jours plus tard, une étrange nouvelle vient bousculer le quotidien trop lisse de Séverine. À deux reprises, la jeune femme apprend qu'une amie de leur milieu fréquente une maison de rendez-vous. Un matin, à son club de tennis, elle croise Henri Husson qui l'aborde comme si rien ne s'était passé entre eux. Avec détachement, il évoque le plaisir de la luxure et se souvient avec nostalgie d'une maison qu'il fréquentait dans sa jeunesse, située au 9 bis rue de Virenne.
L'immense majorité des femmes qui se vendent le font hélas pour de l'argent.
Je ne peux pas comprendre les femmes comme ça.
Vous savez, c'est le plus vieux métier du monde. Aujourd'hui, ça se passe surtout par téléphone, mais les femmes qui vont dans les maisons sont tout de même plus rares.
Des maisons que vous devez bien connaître.
Oui, j'y allais très souvent autrefois, j'aimais beaucoup ça. Un parfum très particulier des femmes complètement asservies. Je me rappelle dans le quartier de l'Opéra. Et surtout ailleurs, chez Anaïs. J'en ai gardé d'excellents souvenirs.
À partir de cet instant, les mille mouvements informes qui avaient supplicié Séverine se cristallisèrent en une ferme obsession. Elle n'en prit pas conscience sur le champ, mais déjà était rompue la cloison qui avait isolé son être apparent et l'être qui se réveillait en elle sous la poussée d'un instinct dont elle hésitait encore à mesurer le pouvoir. La même image heurtait son cerveau en déroute. Une image de félicité équivoque qu'elle avait entretenue pendant sa convalescence. Un homme dont le visage n'était qu'épais désir la poursuivait dans un quartier sordide au fond d'une impasse. L'homme arrivait sur elle, elle respirait son souffle pressé, une angoisse, l'attente d'une volupté sans nom. D'autres visions, plus basses encore et plus confuses, lui revinrent également. Deux jours et deux nuits, Séverine appela l'homme de l'impasse. Puis un matin, Pierre étant parti comme d'habitude pour l'hôpital, elle s'habilla le plus sobrement qu'elle put, descendit, appela un chauffeur. « Vous me mènerez rue Virenne, lui dit-elle. » L'automobile prit par les quais. Elle approchait. La tête de Séverine se tourna vers le côté des numéros impairs. Une façade, une autre, et voici qu'elle devina, avant que la voiture eût passé devant, celle qu'elle cherchait. Elle vit un homme, massif, le veston fatigué, avec ses épaules, cette nuque vulgaire. Il allait chez les femmes dociles. Il montait l'escalier, sonnait. Là s'arrêtait la pensée de Séverine, car ensuite ce n'était qu'un délire d'ombre, de chair, de respiration difficile. Séverine eut besoin de revoir la maison. La première fois, elle s'y fit mener, la seconde, elle s'y rendit à pied. Elle avait si peur qu'elle n'osa point s'arrêter, frôlant avec un trouble profond les vieux murs imbibés de luxure triste et violente. La troisième fois, Séverine déchiffra la plaque posée près de la porte. Madame Anaïs entre seule à gauche. Et la quatrième fois, elle entra. Séverine ne sut pas comment elle gravit l'escalier, ni comment elle se trouva une porte s'étant ouverte en face d'une agréable et grande femme blonde encore jeune. Le souffle lui manqua. Elle voulut fuir, n'osa point. Elle entendit « Vous désirez, mademoiselle ?» Elle murmura « C'est vous qui êtes, qui vous occupez. Je suis madame Anaïs. Alors je voudrais... » Séverine jeta un regard de bête perdue sur l'antichambre où elle se trouvait. « Venez causer tranquillement, » dit madame Anaïs. Elle introduisit la jeune femme dans une pièce tapissée de papier sombre, avec un grand lit à couvre-pied rouge. « Eh bien, ma petite, » reprit aussitôt madame Anaïs avec bonne humeur, « vous voudriez mettre un peu de beurre sur votre pain ? Je suis toute prête à vous aider. Vous êtes gentille et fraîche. C'est le genre qui plaît ici. Moitié pour vous, moitié pour moi. J'ai des frais. » Séverine hocha la tête sans pouvoir répondre. Madame Anaïs l'embrassa. « Un peu émue, je vois, » dit-elle. « La première fois, pas vrai ? Vous verrez, ce n'est pas bien terrible. Quand commencerez-vous ? Je ne sais pas, je verrai. » Soudain, Séverine s'écria avec force, comme si elle craignait de ne pouvoir plus sortir. « En tout cas, à 5 heures, il faut que je m'en aille. Il faut. Comme vous voudrez, ma petite. 2 à 5, c'est un bon moment. Vous serez la belle de jour, quoi. Seulement, il faut être exact, sans quoi nous nous fâcherions. À 5 heures, vous serez libre. Un petit ami qui vous attend, n'est-ce pas ? Ou un petit mari ? Ou un petit mari. Ou un petit mari. » Ces mots sur lesquels elle avait soudain quitté madame Anaïs, Séverine les murmurait obstinément. Dehors, tout se confondit dans sa tête, les sonneries de tramway, madame Anaïs, son propre personnage. Elle traversa la chaussée en aveugle, se trouva appuyée au parapet face à la Seine. Là, elle respira mieux. Le flot fascinant était glacé comme la mort. Autour d'elle, ses tas de sable, ses amas de charbon, ses ferrailles, ses bateaux plats couverts de suie sur lesquels bougeaient en silence des hommes pesants. Séverine fut épouvantée du désir qu'elle reconnut seulement à cette minute. Punit-on un accès de folie ? Et ce qu'elle avait fait, pouvait-on le désigner autrement ? Il fallait guérir le mal qui l'avait subitement atteinte. Cédant à la tentation, Séverine devient bientôt une régulière chez madame Anaïs. Poussée par la quête du plaisir, la jeune femme espère se défaire de son personnage de bourgeoise dominatrice en s'avilissant au contact d'autres hommes. Parmi eux, un certain monsieur Adolphe, confiseur et son premier client.
Belle de jour, mes hommages de 3h moins le quart. Je vais prendre une coupe de champagne avec nous. Anaïs, ma chérie, une roteuse et que ça saute. Tu Dieu, la belle femme, y a rien acheté, tous les morceaux sont bons.
Mais n'y pensez plus, je vous dis, elle est bien trop convenable.
Mais c'est justement pour ça, ma cocotte.
Je suis là, alors, avant qu'il crépousse.
Et alors, belle de jour, on fait la gueule ? Tu vas voir. On va être heureux tous les deux, je te promets. Il paraît que c'est un début. Hein ?
Mais malgré l'ambiance bon enfant et la camaraderie des autres filles, Séverine ne peut échapper à la réalité. La chair est triste. Pourquoi ? Pourquoi, répétait Séverine entre ses dents serrées, pourquoi cette prostitution sans aucune joie ? Livrée à un homme âgé, elle n'avait même pas eu le frisson de l'abaissement qui lui avait fait accepter les caresses de M. Adolphe. La prostitution quotidienne ne lui apportait que lassitude et détresse. Un jour, enfin, elle recueillit la récompense d'un martyr jusque-là gratuit. Une fois de plus souillée et déçue, elle se préparait à prendre congé de madame Anaïs quand un coup de sonnette l'arrêta. À la façon dont madame Anaïs les appela, ses pensionnaires virent que la tâche allait être déplaisante. L'homme qui les attendait était ivre. Vêtu d'une blouse comme en portent les travailleurs des halles, il regardait tantôt ses souliers boueux, tantôt la chambre qui visiblement lui plaisait. Ses mains très fortes tenaient entre ses genoux une bouteille de rhum. « Celle-là, » dit-il avec un mouvement de tête vers Belle de Jour et une rasade d'alcool. Tandis qu'il buvait, Séverine se déshabilla. Il suivit ses mouvements sans un mot. Ce fut sans un mot qu'il la posséda. Son corps pesait lourd. Tout en lui était plus épais que chez le commun des hommes, tout, jusqu'à la matière de ses yeux. Et Séverine, reconnaissant tout à coup cette grossière fureur, cette luxure bestiale dont elle rêvait dans ses fantasmes les plus secrets, se mit à gémir. Ce n'était plus un désir polissé, minutieux, qui s'assouvissait sur elle. C'était celui de la Trinité dont la poursuite l'avait jetée dans ce lit. L'homme de l'impasse qui l'abordait dans le noir, l'homme au cou obscène qu'elle avait vu la première fois entrer chez Madame Anaïs, le marinier des berges de Seine qui lui aurait effleuré la main, ces trois hommes s'assouvissaient sur elle dans la personne de celui qui l'écrasait de sa masse, l'écartelait de ses membres noueux. Séverine était parcourue d'une onde qu'elle ne connaissait point. Elle grinça légèrement des dents, puis soudain elle prit une telle expression de repos, de félicité et de jeunesse, que tout autre que l'homme dont elle était la proie en eût été bouleversé. Il posa un billet 10 fois recollé sur la table de nuit et s'en alla. Séverine resta longtemps étendue. Elle savait qu'un devoir l'appelait dehors, mais ne s'en souciait pas. Il lui semblait désormais qu'elle n'aurait plus peur de rien. Elle venait d'acquérir un bien sur lequel nul n'avait droit de regard. Elle était enfin arrivée au terme de son effroyable course, et cette arrivée était un départ. Sa joie spirituelle dépassait même la joie physique qui l'avait ébranlée d'un flux à nul autre pareil. Elle avait conquis ce qu'elle avait cherché en aveugle, et cette conquête achevée au prix d'un tel enfer l'étourdissait d'un étrange mais vaste orgueil. Peu à peu, Séverine s'encanaille et fréquente le milieu des voyous. Transformée par sa révélation sensuelle, Séverine a pris de l'assurance. Plus elle s'humilie auprès des inconnus de la rue Virenne, plus elle éprouve pour son mari un amour sublimé, plein de tendresse et de dévotion. Elle lui propose de partir quelque temps en vacances au bord de la mer, espérant se retrouver. Mais leur tête-à-tête se clôt par un nouveau sentiment de frustration.
Salut Anaïs, on peut entrer?
Je pense bien. Venez ici les enfants, toutes les trois.
Je vous ai amené quelqu'un, c'est un ami. Il faudra le traiter... bien.
Bien sûr, monsieur Hippolyte.
Bien paye sur toi la nouvelle. Alors, hein?
Laisse-la moi.
Prends-la, petit, si tu la veux. Et amuse-toi, c'est de ton âge.
De retour à Paris, Séverine reprend le chemin de la rue de Virenne. Elle y retrouve son amant régulier, un certain Marcel, gueule d'or, un jeune homme impulsif et dangereux. La porte battit furieusement. Sur le seuil, Marcel, blanc, tremblait d'un tremblement qui s'était formé pendant des jours et des jours de colère. « Tu es seul ?» dit-il indistinctement. « Tant pis, j'aurais voulu te surprendre avec un homme. » Séverine, sans s'en apercevoir, avait reculé jusqu'au mur. « J'ai dû partir quelques jours, » murmura-t-elle. « Je t'expliquerai. »« Expliquer ?» rugit Marcel. « Attends, je vais m'expliquer, moi. » Il retira la ceinture qui serrait ses hanches étroites, ferma la porte à clé. Séverine suivait ses mouvements d'un regard stupide, incompréhensif. Mais brandie par une main furieuse, la lanière siffla. Où Séverine sut-elle trouver l'adresse et la force d'esquiver le coup, de se saisir de la ceinture? Et où puisa-t-elle cette énergie sauvage qui dompta Marcel lorsqu'elle dit « Ne bouge pas, ou quoi que vous fassiez tous, tu ne me revois plus ». Ils restèrent longtemps séparés par toute la largeur de la chambre. Leur respiration haletante peuplait le silence. Elles se calmèrent peu à peu, et peu à peu se dissipa l'épouvantable image qui avait galvanisé Séverine. Sa figure déchirée d'une blessure infâme sous le regard de Pierre. Avec cette image s'en alla toute sa vigueur, mais elle n'en avait plus besoin. Marcel disait, le front bas, « Tu es une femme pas faite comme les autres. » Il releva la tête en entendant un bruit mat. Séverine venait de s'affaisser. Il se jeta vers elle, la porta sur le lit. À demi consciente, elle leva les bras pour se protéger le visage. « n'aie pas peur ma belle, » répétait Marcel confusément. Il ne la toucha pas ce jour-là. Il y avait sur son visage d'ange déchu un sentiment plus profond que le désir.
Moi j'attendais qu'on se déteste. Rien ne viendra plus à présent. De nos amours, ce qu'il en reste. Si peu de chair, tellement de sang. Si peu de chair, tellement de sang. Tu n'es plus là, rien n'a changé. Le problème est le même, tu sais. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Moi j'attendais l'heure du déluge. Le feu et les pluies diluviennes. Un torrent pour dernier refuge. Mais rien ne vient et ne m'entraîne. Mais rien ne vient et ne m'entraîne. Tu n'es plus là, rien n'a changé. Le problème est le même, tu sais. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer.
Venez les enfants, un vieil ami est de retour.
Allez, remuez-vous un peu.
Restons chez Madame Anaïs. Quelque temps plus tard, un inquiétant visiteur se fait annoncer. Faites-vous belle, c'est un monsieur très bien, il veut que tout le monde soit là. En suivant ses compagnes, Séverine n'eut aucun pressentiment. De son pas tranquille, ses belles épaules très droites, elle entra dans la grande chambre. L'homme se tenait contre la fenêtre, mais la vue de ce dos étroit, osseux, fit reculer Séverine. Le nouveau client de la rue Virenne pivota sur lui-même, et Séverine n'eut plus la force de faire un pas. Les yeux usés et minces de Henri Husson s'arrêtèrent sur elle. Cela ne dura qu'un instant, mais Séverine eut l'impression d'être capturée dans un filet auquel rien ne la pouvait plus ravir. « Bonjour mesdames, asseyez-vous, je vous prie, » dit Husson. « Mais comment s'appelle-t-elle ? » ?»« Ah, parfait, mademoiselle Charlotte, mademoiselle Mathilde et... »« Belle de jour ?»« Belle de jour, c'est curieux et frais. » Il employa toutes les ressources musicales de sa voix, tout son charme énervant. Des boissons furent servies. Charlotte voulut s'asseoir sur les genoux de Husson. Il l'évita courtoisement. Il parla de mille choses insignifiantes, mais avec un souci d'expression de plus en plus étudié, de plus en plus acéré, et chacune de ses phrases déchirait fragment par fragment l'âme de Séverine. Elle n'éprouvait ni honte, ni effroi, mais un malaise pire que tout sentiment définissable. Avec la même sûreté, Husson provoqua chez Charlotte des réponses équivoques et des rires grossiers. Il fit durer ce jeu de contraste pendant une heure entière, au cours de laquelle il ne regarda que rarement Séverine. Mais alors, de légères vibrations lui creusaient les paupières, et Séverine devinait avec épouvante ce que ses mouvements fragiles décelaient de volupté. Puis Husson régla les boissons, posa quelques billets sur la cheminée et dit « Je vous prie de partager entre vous ce souvenir. Au revoir, mesdames. » Déjà dans l'antichambre, Husson prenait congé de Madame Anaïs lorsque Séverine s'élança. « Arrêtez !» balbutia-t-elle en étendant un bras vers Husson. « Il faut... »« Voyons, belle de jour, » dit Madame Anaïs. « Vous qui avez tant de tenue, que va penser monsieur ?» Husson laissa passer quelques secondes pour ne rien perdre du prix que représentait ce rappel à l'ordre. Il dit ensuite « Je voudrais rester seul avec madame, strictement seul. » « Eh bien, qu'est-ce que vous avez donc, belle de jour ?» s'écria Madame Anaïs. « Conduisez monsieur dans votre chambre. » Quand la porte se fut refermée sur eux, un flux hystérique souleva Séverine. « Comment avez-vous pu ? Comment avez-vous osé ? Ne me dites pas que c'est par hasard, vous le saviez que j'étais ici. C'est vous qui m'avez donné l'adresse, pourquoi ? Mais pourquoi ?» Elle ne lui laissa pas le temps de répondre, car une supposition venait de lui traverser l'esprit. « Vous ne prétendez pas m'obtenir par ce moyen, je pense, » poursuivit-elle plus rapidement encore. « N'avancez pas, sinon j'ameute les passants, je me jette dehors. Vous me répugniez comme jamais être humain ne m'a répugné. « C'est votre lit ?» demanda doucement Husson. « Ah, voilà ce que vous cherchiez. Oui, c'est ma chambre. Oui, c'est mon lit. Que voulez-vous savoir encore ? Ce que je fais, la façon de le faire, des photographies ? Vous êtes pire que tous ceux que j'ai vus ici. » Elle s'arrêta, parce qu'il l'écoutait avec une délectation trop manifeste. Husson attendit un peu, puis il lui prit la main et la caressa du bout de ses doigts légers, frileux. « Tout ce que vous dites est juste, » observa-t-il à mi-voix. « Mais qui donc pourrait m'excuser mieux que vous ? » Séverine fut comme fauchée par cette réponse. Elle s'affaissa sur le lit. La robe un peu relevée, le couvre-pied rouge, cela ranima chez Husson un plaisir qu'il croyait avoir épuisé entièrement. Il en jouit silencieusement, puis une fatigue, une tristesse et une pitié encore plus profonde le tinrent courbé. Puis il se redressa. Il évita de faire le moindre bruit, comme s'il avait peur de réveiller la puissance impure qui les avait réunis en cet endroit. « un instant encore, supplia-t-elle. Dites-moi, au nom du ciel, Pierre, il ne saura rien. » Comment aurait-il pu négliger l'occasion de cette volupté longue que lui offrait Séverine elle-même? Pour qu'elle gardât son visage déchiré, il fit un geste évasif et sortit. Il ne voulut pas perdre le plus inattendu et le plus vénéneux des fruits qu'il avait ce jour-là cueillis. Sous le choc, Séverine prend soudain conscience du jeu dangereux qu'elle a joué. Les jours suivants, la jeune femme ne quitte plus son domicile, guettant chez son mari la réaction des confidences qu'Henri Husson ne manquerait pas de lui faire. Chaque soir, elle attend le retour de Pierre dans l'espoir de tout lui avouer. Mais chaque soir, le courage lui manque de briser leur belle insouciance. Ils passèrent la nuit ensemble. Quand Pierre se fut endormi, elle se redressa légèrement. Elle ne voulait pas du sommeil. Un condamné à mort ne berce-t-il pas ses derniers instants du souvenir de ce qu'il aima? Séverine écouta le souffle de Pierre. « Il est à moi, encore à moi, se disait-elle. Mais il va s'en aller. Ce beau corps, cette belle figure, ce beau cœur rempli d'elle, tout bientôt serait dévasté. » Séverine, penchée sur les cheveux de Pierre, murmura presque inconsciente. « Mon chéri, mon petit garçon, quand tu sauras, ne souffre pas trop. Pourquoi ? Pourquoi ? Je t'aime d'un amour plus grand encore. Sans tout cela, je ne l'aurais pas su. Alors ne souffre pas trop, je ne pourrais pas. » Elle s'abattit contre l'oreiller. Elle pleurait sur lui, sur elle, et sur la condition humaine qui divise la chair et l'âme en deux inconciliables tronçons, misère que chacun porte en soi et ne pardonne pas à l'autre. Puis elle se rappela toute leur vie commune. D'infimes détails qu'elle croyait avoir oubliés pour toujours lui revenaient à la mémoire. À chacun d'eux, elle effleurait l'épaule de Pierre, sa tête, et répétait comme une incantation « Ne souffre pas, pas trop. Fais de moi ce que tu veux, mais ne souffre pas. » Au milieu de ses souvenirs, de ses angoisses et de ses prières, elle vit poindre le matin. Une fois déjà, à la suite de sa première visite chez Madame Anaïs, elle avait cru que cette lumière indécise lui apporterait la paix intérieure. Qu'elle était innocente alors, tandis qu'aujourd'hui, un autre, d'un seul mot, pouvait corrompre de la pire fange la plus tendre vie. Et ce mot serait prononcé. Husson ne résisterait pas au plaisir qui faisait se creuser ses paupières. Il jouirait de sa terreur ainsi qu'il l'avait faite lorsque, vautrée sur son lit de prostituée, elle mendiait son silence. Et voici venir le dénouement de ce drame passionnel. Un matin, Séverine découvre au courrier une lettre qu'Henri Husson a adressée à son mari. Elle l'ouvre et y lit ces mots tant redoutés. « Cher ami, j'ai à vous parler. Le rendez-vous est fixé au jour même, à midi et demi, dans le square attenant à l'hôpital où travaille Pierre. » Séverine se précipite chez son amant, Marcel, gueule d'or, et le supplie de lui venir en aide. Celui-ci, habitué aux coups de force, lui promet d'intervenir. Accompagné d'un chauffeur, ils se rendent ensemble sur les lieux. Armé d'un couteau à cran d'arrêt, Marcel est bien déterminé à faire la peau à ce pervers qui menace la femme qu'il aime. Découvrons cette scène d'action propre au roman de Kessel qui ne figure pas dans le film de Louise Buñuel. Husson était arrivé dans le jardin quelques minutes seulement avant l'heure fixée. À peine se fut-il engagé dans la petite allée où l'on voit la rive gauche, qu'il aperçut Pierre et marcha vers lui. Ce fut alors que Marcel s'élança. Même si sa résolution n'eût pas été aussi bien prise, le cri de Séverine, charnel, meurtrier, lu par sa seule véhémence, fait frapper. Ce cri fortifiait l'âme de combat, la chaleur de sang tant redoutée par ses ennemis. Et comme la chance l'avait suivi dans plusieurs affaires difficiles, rien ne lui fait reculer. Marcel courait la main posée sur le manche du couteau à cran d'arrêt ouvert dans sa poche. Lucide, il calculait. Il tombe, je saute sur une pelouse, et avant qu'on ait pensé à moi, Albert roule. Il avait confiance dans sa force, dans son agilité et dans la science de son chauffeur. Mais il avait compté sans l'intervention de Pierre et sans l'inquiétude de celui qu'il voulait pour victime. Voyant cet homme fondre droit sur Husson, Pierre, qui venait à sa rencontre, fit un signe impérieux d'avertissement. D'un mouvement rapide, Husson se retourna, s'effaça. Une lueur étincelante passa devant son visage. Marcel, avec une souplesse d'animal, leva de nouveau son couteau. Mais Pierre s'était jeté en avant. Il vit contre la sienne une figure contractée, un rictus de métal. Ce fut lui qui reçut le coup. Il l'atteignit à la tempe. Pierre s'effondra sur le sol. Marcel est arrêté par la police, Pierre transporté à l'hôpital. Retrouvons désormais Séverine au chevet de son mari.
Comment va-t-il ?
On ne peut encore rien dire, mais je réponds de sa vie. Calmez-vous.
Je peux le voir ?
Non, je regrette, il est encore dans le coma. Demain, peut-être ? Vous devriez rentrer chez vous, Madame Cirisier, et tâcher de vous reposer un peu. On vous tiendra au courant heure par heure, je vous le promets.
Merci.
Ne vous inquiétez pas.
Blessé à la tête, Pierre est devenu tétraplégique. Immobilisé dans un fauteuil, il recouvre peu à peu l'usage de la parole. Son seul loisir reste la lecture des journaux. L'affaire du square de Notre-Dame a fait scandale. Une tentative de meurtre commise par une petite frappe de Montmartre pour venger l'honneur d'une prostituée. Chaque jour, l'instruction progresse et l'étau se resserre autour de Séverine. La presse va-t-elle finir par livrer son nom ? Pierre va-t-il apprendre toute l'histoire par les journaux ? Un dimanche, Séverine se rend auprès de son mari. Un médecin lui annonce que Pierre fait des progrès et qu'ils pourront bientôt partir en vacances dans le Midi. Tout semble porteur d'espoir. « Eh bien, mon chéri, tu es content ?» demanda Séverine quand ils furent seuls. « Tu es content, n'est-ce pas ?» Pierre ne répondant pas, elle remarqua que le crépuscule était venu et qu'il l'empêchait de discerner les réactions d'un visage qui les exprimait mal. Elle fit de la lumière, s'assit entre les jambes mortes et, comme elle le faisait d'ordinaire, interrogea les yeux de son mari. Et alors Séverine connut une souffrance plus cruelle que toute celle qui, tour à tour, s'était acharnée sur son cœur misérable. De la gêne, pire, de la honte. Voilà ce que Séverine découvrit dans le regard tremblant, enfantin et fidèle. La honte qu'avait Pierre de son corps ruiné, la honte d'avoir à se faire à jamais soigner par elle qu'il avait si chèrement protégé. « Pierre, je suis heureuse avec toi, » balbutia Séverine. Il essaya de secouer la tête, y réussit à peine et murmura entre ses lèvres déformées « Pauvre, pauvre, le midi, le fauteuil, pardon. Tais-toi, par pitié, tais-toi. » C'était lui qui demandait pardon. C'était lui qui, toute sa vie durant, allait se considérer comme un fardeau et souhaitait, elle le connaissait, de mourir pour l'en délivrer. « Non, non, ne me regarde pas ainsi !» cria soudain Séverine. « Je ne peux pas !» Elle colla son front contre cette poitrine qui avait été si chaude, si robuste. Quoi ? Toute cette lutte et son issue miraculeuse se retournaient contre Pierre ? Plus elle lui semblerait pure, et plus il souffrirait des soins qu'elle lui donnerait, elle qui... Séverine ne savait plus. Séverine se demandait où était le vrai bien, le vrai salut. Elle implorait une lumière, un choc, la foudre. Tandis que dans cette fièvre désespérée, elle se pressait de plus en plus contre Pierre, elle sentit des mains mal soumises essayer de caresser ses cheveux, ses mains d'infirme. Séverine avait pu tout endurer, cela c'était impossible. Elle parla. Comment expliquer un tel mouvement ? Par la seule impuissance à montrer une vertu mensongère à celui qu'elle aimait d'un amour infini ? Par le besoin moins noble de la confession ? Par l'espoir souterrain d'être pardonné malgré tout et de vivre ensuite sans le fardeau d'un horrible secret ? Qui pourrait compter les éléments qui s'agitent, se fondent dans un cœur humain et le précipitent sur des lèvres tremblantes ? Trois ans ont passé. Séverine et Pierre vivent sur une petite plage très douce. Mais depuis qu'elle lui a fait son aveu, Séverine n'a plus entendu la voix de Pierre.
Je confesse qu'il me faut du temps de... Rien dans ce monde.
Épilogue. Comme le film de Buñuel, le roman de Joseph Kessel garde son mystère. Quel mot mettre sur la frustration dont souffrent Pierre et Séverine à l'origine du drame ? Impuissance ? Frigidité ? Ou la banale mésalliance d'un mariage bourgeois ? En conclusion, découvrons cette page essentielle à la compréhension du personnage de Séverine. Un douloureux souvenir d'enfance explique la chute de la femme qu'elle est devenue. Pour aller de sa chambre à celle de sa mère, Séverine, qui avait 8 ans, devait traverser un long couloir. Ce trajet qui l'ennuyait, elle le faisait toujours en courant. Mais un matin, Séverine dut s'arrêter au milieu du couloir. Une porte, qui à cet endroit donnait sur la salle de bain, venait de s'ouvrir. Un plombier parut. Il était petit, épais. Son regard, filtrant sous de rares cils roux, se posa sur la petite fille. Séverine, qui pourtant était hardie, eut peur, recula. Ce mouvement décida l'homme. Il jeta un bref coup d'œil autour de lui, puis des deux mains attira Séverine. Elle sentit contre elle une odeur de gaz, de force. Deux lèvres mal rasées lui brûlèrent le cou. Elle se débattit. L'ouvrier riait en silence, sensuellement. Ses mains, sous la robe, lissèrent le corps doux. Soudain, Séverine ne se défendit plus. Elle était toute raide, blanche. L'homme la déposa sur le parquet, s'éloigna sans bruit. Sa gouvernante trouva Séverine étendue. On crut qu'elle avait glissé. Elle le crut aussi. Joseph Kessel.
La virilité, c'est le courage, c'est la générosité, c'est le savoir souffrir en silence.
Ça ne suppose chez vous aucun mépris de la femme, aucune espèce de misogynie ?
Non. Je trouve que dans beaucoup de domaines, les femmes sont supérieures aux hommes. Je m'en suis aperçu pas au début de ma vie, mais enfin, il y a beaucoup plus de dignité chez certaines femmes, beaucoup plus d'abnégation et beaucoup plus de courage que chez la plupart des hommes.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Pascal Bénard à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.